Il est 6h.
Eh oui, ça nous manque ce genre de musique. Quand est-ce qu'on va pouvoir se déhancher dans les boîtes de nuit? Elles sont fermées depuis près d'un an et demi. Une réouverture pour l'été semble enfin se dessiner. Dans ce journal, Jean Castex, à nouveau cas contact, à l'isolement pendant 7 jours. L'audition très attendue aujourd'hui de Jean-François Copé au procès Big Malion. Et puis 60 ans de carrière exposée à Marseille. Les Rolling Stones posent leurs valises au Vélodrome à partir d'aujourd'hui. C'est l'exposition Unzipped. On vous y emmène à la fin de ce journal.
Et justement, après ce journal et après le journal des sports de Lénaïque Monnier, mon invité inattendu, il est l'homme derrière le logo iconique des Rolling Stones, cette bouche avec la langue tirée. Qui est-il? Rendez-vous dans 20 minutes, à tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça y est, nous avons les restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les casinos. Une question maintenant, à quand la réouverture des discothèques? C'est le seul secteur qui reste totalement à l'arrêt depuis le tout premier confinement, soit depuis 15 mois. Pour l'instant, pas d'annonce concrète de la part du gouvernement. La date du 2 juillet est évoquée. Emmanuel Macron devrait trancher le 21 juin. Autant dire que cela laisserait peu de temps aux établissements pour se préparer, Carole Ferry.
Selon les professionnels du secteur, les pistes pour le moment, c'est une jauge à 65%, des tests antigéniques à l'entrée, les consommations assis, uniquement assis maximum. Mais rien n'est encore tranché et ça ne facilite pas le recrutement du personnel qui fait déjà défaut, selon Christian Jounit du syndicat national des discothèques.
Nous ne pouvons pas dimensionner correctement notre recrutement. Moi, ce matin, j'ai commencé l'exercice et j'ai malheureusement constaté que sur une vingtaine d'appels, j'avais déjà 18 personnes qui s'étaient orientées dans d'autres secteurs d'activité. Et je peux le comprendre, ils n'avaient pas non plus l'obligation d'attendre qu'on puisse leur donner un feu vert. Et c'est vrai que nous sommes tous dans la difficulté.
Alors si vous cherchez un job d'été, eh bien c'est le moment de préparer vos CV. Il y a besoin de serveurs, d'hôtesses d'accueil, d'agents de sécurité et puis de chauffeurs de bus, là où des transports ont été mis en place pour amener les fêtards chez eux.
Carole Ferry.
Les restaurants ouverts, les piscines, autant de petits plaisirs que Jean Castex ne pourra pas goûter, en tout cas pas tout de suite. Le Premier ministre est encore une fois cas contact.
Hier à la même heure, il était à Rungis auprès des professionnels pour lancer la nouvelle étape du déconfinement. Mais aujourd'hui, retour à la case isolement. Cette fois, c'est son épouse qui est positive au Covid. Alors jusqu'à présent, Jean Castex n'a jamais contracté le virus, mais Aurélie Arbemont, il commence à être un habitué du cas contact.
Et oui, c'est la troisième fois que le Premier ministre est cas contact, d'abord du directeur du Tour de France en septembre, puis du chef de l'État en décembre, et donc aujourd'hui de son épouse. Hier soir, il a été testé négatif, mais le voilà à nouveau contraint à l'isolement. Pour 7 jours, après avoir passé la journée d'hier sur le terrain pour marquer la nouvelle étape du déconfinement, il a même bu un café au comptoir à Rungis. Il en sera privé pour une semaine. Hasard du calendrier, Jean Castex aurait dû recevoir sa deuxième dose d'AstraZeneca en fin de semaine. Son rendez-vous sera reprogrammé la semaine prochaine. Isolement oblige et s'il est négatif, bien sûr, condition sine qua non pour ressortir. Son prochain déplacement de soutien à un candidat au régional prévu mercredi est donc en attente de confirmation. Et d'ici là, toutes ces réunions se feront évidemment en visio.
Dans l'actualité également, c'est le féminicide qui avait déclenché le Grenelle des violences faites aux femmes en 2019. Julie Douib, tuée par balle par son ex-compagnon en Corse. Le procès du tueur s'ouvre aujourd'hui aux assises de la Haute-Corse à Bastia. Il encourt la peine de prison à perpétuité. Vous entendrez le témoignage de la mère de la victime dans le journal de 7h.
Quant au procès de l'affaire Big Malion et du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, il se poursuit aujourd'hui. Et à la barre cet après-midi, Jean-François Copé.
Et son témoignage est très attendu. L'ancien patron de l'UMP est venu dire à quel point il ne savait rien en se présentant comme le bouc émissaire de cette affaire. Chloé Triomphe.
Je ne me suis occupé ni de près ni de loin de l'organisation de la campagne. En un mot, commençant, Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP en 2012, pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, douche toutes les questions du tribunal, au point que le procureur ironise au détour d'une phrase. Dans ce procès, nous sommes là pour comprendre comment tout cela a été possible. Je ne sais pas si nous y arriverons. En tout cas, ce n'est pas le témoin Copé qui aura répondu à la question centrale, celle de savoir qui a décidé de la mise en place de la fraude pour masquer le dépassement des plafonds de la campagne. Car Jean-François Copé avait hier une toute autre vérité à délivrer. Son témoignage d'homme politique blessé. C'est le souvenir le plus douloureux de ma vie professionnelle, explique-t-il, en racontant la haine dans les yeux de ses meilleurs ennemis à droite, alors qu'il incarnait la relève dont certains ne voulaient pas. Ben voyons, j'étais le parfait bouc émissaire, conclut Jean-François Copé, qui lance une énième fléchette. Qu'est-ce que mon nom est prononcé dans cette affaire alors que je suis témoin, tandis que d'autres ne le sont jamais. Allusion à peine voilée en direction de Nicolas Sarkozy, qui sera interrogé la semaine prochaine.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. 6h05, vous restez avec nous dans quelques instants. On part à Marseille pour s'immerger dans cette exposition consacrée aux Rolling Stones, expo événement Unzipped. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
6h08, la suite du journal Sophie Echen.
60 ans de carrière, 1500 concerts, 240 millions d'albums écoulés. Et rien que ça, et ça, ce sont les Rolling Stones. L'exposition Unzipped qui leur est consacrée débarque à Marseille à partir d'aujourd'hui. Des centaines d'objets rares du groupe de rock mythique, des instruments détenus, mais aussi des reconstitutions de leur studio et même de leur tout premier appartement. Visite en avant-première et en musique avec Stéphane Frangy.
Les cigarettes débordent du cendrier, les bouteilles de bière, les disques de blues traînent partout. Pour Martin d'Argentlieu, l'organisateur de cette exposition, c'est ici que sont nés les Rolling Stones.
Ils jouent des heures entières et ils écoutent des disques. Alors ils les passent exprès à vitesse beaucoup moins rapide pour écouter comment ils font les accords de guitare. C'est vraiment le lieu où les Rolling Stones s'accordent et ça y est, ils se trouvent. Voilà.
Ici, on cherche l'immersion, les studios atlantiques, les instruments originaux et puis surtout les fameuses tenues de scène outrancières qui ont marqué le parrain de cette exposition, Philippe Manœuvre.
À Hyde Park, devant 500 000 de personnes, ce concert, je l'ai écouté à Europe 1. Mais ça m'a un envoyé spécial. Le groupe arrive, Mick Jagger est en robe. Il a le culot, quoi. Il fait un truc que personne n'a jamais osé. C'est ça qu'on aimait avec les Stones.
Et autre pièce rarissime, les carnets de travail, véritable mine d'informations pour le journaliste musical Olivier Cachin.
Moi, j'ai adoré lire dans le petit carnet de Keith Richards. Aujourd'hui, on a gagné 70 livres. Pas mal comme journée. Même les Stones ont commencé petit.
Et l'exposition qui se conclut sur le dernier coup des Stones, leur concert historique à la Havane. 5 écrans, 5 prises de vue différentes, comme si vous y étiez. Marseille, Stéphane Frangy, Europe
1. Voilà, Unzipped Expo, événement qui démarre donc aujourd'hui au Stade Vélodrome de Marseille, qui va durer tout l'été jusqu'au 5 septembre. C'est la réédition d'une expo britannique qui avait été exposée déjà à Londres en 2013. Ça donne très envie. Et justement, qui est derrière le fameux Lipson Tong? Qui a créé le logo devenu iconique des Rolling Stones? Mon invité inattendu lève le suspense. Il est avec nous dans une petite dizaine de minutes maintenant. Il avait été débauché, figurez-vous, par les Rolling Stones dans les années 70. Ne manquez pas cette interview. À tout à l'heure. Merci. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h10. L'heure de passer au sport avec Lénaïque Monnier. Et ça y est, l'Euro de foot arrive, on y est presque.
Oui, avec cette question, les Bleus sont-ils prêts à faire comme ceux de 98? Autrement dit, enchaîner le titre mondial et le sacre européen dans la foulée. En tout cas, les deux dernières semaines à Clairefontaine ont servi à ajuster, affiner, créer des automatismes. Est-ce que Didier Deschamps est satisfait?
Il y a une progression dans le travail et dans ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Là, c'était la dernière répétition. Donc, même si c'est un match amical, le fait d'avoir un peu de supporters aussi, de les entendre, c'est quelque chose qui stimule les joueurs. Donc, on est dans le vrai. Ça ne va pas nous donner de garantie, mais la conscience d'avoir beaucoup de force, de qualité, et on aura besoin de tout ça pour ce qui nous attend.
Didier Deschamps avec Cyril de la Morinerie. Les Bleus partent lundi pour Munich, veille de leur match face à l'Allemagne. Karim Benzema normalement sera rétabli d'ici là. Les nouvelles sont plutôt rassurantes de la part du staff médical. On suivra ça de près puisque Europe 1 est la radio diffuseur de l'Euro avec dès demain le match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie.
En tennis, un programme chargé demain aussi puisqu'on suivra la demi-finale Djokovic-Nadal à Roland-Garros.
Voilà, le Serbe qualifié hier soir juste avant minuit. Il a battu, mais en 4-7 et 3h30, l'Italien Berrettini. Aujourd'hui, place au dernier carré féminin. La Russe Pavlyuchenkova et la Slovène Zidanec ouvriront le bal. Puis la Tchèque Krejčíková contre la Grecque Sakkari. Et que pense justement Justine Hénin de ces demi qui sont totalement inédits?
Pavlyuchenkova, je suis vraiment heureuse pour elle parce qu'elle a joué des quarts de finale, elle est plus âgée et que il était temps dans sa carrière, je pense qu'elle puisse franchir ce cap-là. J'ai vraiment été bluffée par Maria Sakkari aujourd'hui, et Krejčíková, Zidanec ont une intelligence de jeu, sont pas spécialement des cogneuses avec un jeu stéréotypé. Moi, j'aime bien qu'on joue sur terre battue, qu'on doit jouer sur terre battue, et je trouve que ces quatre jeunes femmes, elles, c'est ce qu'elles ont montré.
Et elle en sait quelque chose, hein. Justine Hénin, qui a quand même gagné 4 fois à Paris avec l'un des plus beaux revers du circuit. Elle répondait à Axel May. Et on n'oublie pas non plus le rendez-vous de Roland-Garros à 8h avec cette fois-ci Corinne Boulou.
Pour parler de ces plaisantes demi-finales de Roland-Garros qui s'annoncent, merci beaucoup Lénaïque Monnier pour ce journal des sports.
Europe 1.
Les Rolling Stones fêteront donc leurs 60 ans l'an prochain, longévité exceptionnelle qui valait bien une exposition. L'expo Unzipped ouvre ses portes aujourd'hui à Marseille au Stade Vélodrome pour tout l'été. Pour retracer, vous l'avez entendu, cette carrière, les coulisses de l'épopée du groupe de rock au logo devenu culte. D'où vient-elle cette image d'une bouche rouge qui tire la langue? On pose la question à mon invité inattendu ce matin. Good morning.
Good morning there, it's John Pash here.
Bienvenue sur Europe 1, John Pash. Vous êtes graphiste londonien et c'est donc vous qui avez créé ce fameux Lips and Tongue au début des années 70. Vous nous en racontez l'histoire, la commande passée par Mick Jagger en personne dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
6h16, mon invité inattendu ce matin est donc l'homme qui a dessiné ce logo iconique des Rolling Stones. Comment avez-vous été contacté, John Pash, alors que vous n'étiez encore qu'un étudiant au début des années 70?
Oui, c'est vrai.
J'étais étudiant en art au Royal College of Art à Londres. J'étais en dernière année et le bureau des Rolling Stones a contacté l'université pour demander s'il pouvait envoyer un étudiant auprès de Mick Jagger. Ils voulaient parler de l'affiche de leur prochaine tournée. Et oui, c'est vrai, j'ai été très chanceux, c'est moi qu'ils ont choisi. Je suis donc parti rencontrer Mick, et je crois qu'ils ont été très contents du premier dessin que j'ai fait. Quelques mois plus tard, le bureau m'a recontacté. Il me proposait de revoir Mick, mais cette fois-ci pour parler du logo du groupe. Un peu avant notre rendez-vous, Mick est passé dans un petit magasin et il est tombé sur l'image d'une divinité indienne. Elle avait une langue très pointue qui sortait de sa bouche. Il m'a montré cette image et je l'ai beaucoup appréciée. Je pense que cette langue a germé dans mon esprit et c'est ça qui m'a donné l'idée pour réaliser ce logo.
Et beaucoup de gens pensent que cette bouche, John Pash, c'est celle de Mick Jagger, et donc en fait, pas du tout.
En fait, je pense que ça aurait pu marcher, mais non, ça ne vient pas de là. C'était plutôt une forme de contestation, une contestation assez douce, c'est vrai. Vous savez, un peu comme quand les enfants tirent la langue. C'était un peu un acte de rébellion.
Symbole de rébellion, c'était vraiment ça pour vous. On est en 1971.
Oui, c'est tout à fait ça. C'était une image relativement sensuelle. Ça allait bien avec l'époque, avec les années 70. J'ai été aussi beaucoup influencé par Andy Warhol, par tous les artistes américains du pop art. Donc ça a sûrement joué sur la façon dont j'ai fait ce logo.
Justement, beaucoup de gens sont restés persuadés que c'est Andy Warhol qui a dessiné ce logo. Ça a été difficile à vivre pour vous, John Pash?
À vrai dire, je n'y ai pas fait trop attention. Les gens ont pensé ça parce que j'avais dessiné une partie du livret de l'album Sticky Finger. Et c'est là que j'ai utilisé la langue pour la première fois. Mais Andy Warhol, lui, avait dessiné la couverture de l'album. C'est donc normal qu'on ait pu penser que le logo était aussi de lui. Heureusement, il a lui-même reconnu plus tard que c'était bien moi l'auteur du dessin.
Bon, et 51 ans, en tout cas, après Sticky Finger, votre logo est devenu une icône partout dans le monde. Et vous avez vendu le dessin original, le croquis, à un musée à Londres il y a quelques années. C'est une fierté pour vous, l'idée qu'il soit considéré désormais comme une œuvre d'art qui doit être transmise aux générations futures?
Oui, tout à fait. Je ne voulais pas le vendre à un collectionneur privé, là où le dessin aurait pu être enfermé. J'ai donc pensé que le musée Victoria and Albert était l'endroit parfait. C'est super de se dire qu'il est au milieu des étudiants, accessible à tout le monde, qu'il peut inspirer d'autres générations. Le musée est aussi lié au Royal College of Art de Londres, la même où j'ai fait ce dessin. Seules quelques centaines de mètres séparent les deux endroits. Donc c'est un peu comme un retour à la maison.
Voilà, l'histoire de ce logo et bien d'autres coulisses à découvrir à partir d'aujourd'hui dans le cadre de l'exposition Unzipped Expo, événement sur la carrière des Rolling Stones au Stade Vélodrome à Marseille jusqu'au 5 septembre. Plus de 400 objets issus des collections privées, des papiers rockers désormais. Merci beaucoup John Pasch, créateur de cette image devenue culte. Merci d'être venu nous en raconter l'histoire ce matin. Bonne journée.
Pleasure, thank you. Goodbye.
Europe 1. Théo Manval.
À 6h20, l'essentiel, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron atteint l'Ermitage dans la Drôme, sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. L'un de ses proches interpellés avec lui devra lui s'expliquer sur les armes détenues illégalement retrouvées à son domicile. Jean Castex, à nouveau cas contact, cette fois-ci de son épouse. Le Premier ministre va devoir s'isoler pendant 7 jours conformément aux règles sanitaires. En déplacement à Rungis, hier, il a été testé négatif dans la soirée. La suite du procès Big Malion, avec l'audition très attendue de Jean-François Copé, aujourd'hui en tant que simple témoin. Contrairement aux autres prévenus, il a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Et puis après Renault et Volkswagen, c'est au tour de Peugeot d'être mis en examen dans l'enquête sur le scandale du Dieselgate. C'est ce qu'a annoncé hier soir Stellantis, la maison mère du constructeur français. Votre 5-7 se poursuit en musique avec Zazie dans la partition d'Omblin Roche, à suivre dans quelques secondes.
Europe 1.
6h24, la partition Omblin Roche, l'histoire cachée derrière un artiste, une chanson, un disque. Et c'est dans une pochette couleur carton avec une étiquette qui semble avoir été arrachée que Zazie présentera demain l'édition vinyle de son album composé, comme son nom l'indique, de rareté. Et parmi les pépites rassemblées Omblin, la chanteuse a choisi de faire figurer son duo avec Pascal Obispo.
Oui, c'est une amitié longue de 30 ans qu'entretiennent les deux artistes. Hein, Théo, ils se rencontrent alors que tous les deux débutent leur carrière. Ils sont jeunes, plein d'envie, cela pète un peu, dira plus tard Pascal Obispo. Zazie en 1991, à 27 ans, et bientôt le chanteur va lui offrir l'un de ses succès les plus emblématiques.
Fallait rester zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen. Plus le choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la
On va revenir au commencement. Omblin, Zazie gagne sa vie comme elle peut en étant mannequin et en prêtant sa voix pour des pubs à la radio.
Et pour percer dans la chanson, elle n'a pas froid aux yeux et elle y va au culot afin de décrocher des rendez-vous avec des maisons de disques. Zazie se fait passer au téléphone pour l'assistante de Marc Lavoine.
Tiens bon.
Un petit subterfuge qui va s'avérer payant avec à l'arrivée un contrat signé chez Mercury.
C'est pendant la conception de son premier album que Zazie rencontre Pascal Obispo.
Oui, un autre débutant, ça tombe bien. Zazie souhaite ajouter dans sa liste de chansons une composition d'un artiste totalement inconnu, la directrice artistique de son label. Alors l'idée de lui faire écouter quelques maquettes de Pascal Obispo qui envoie beaucoup d'enregistrements, 75 par jour, dit-on avec humour au sein de Mercury. Mais il a du talent. Zazie souhaite donc rencontrer ce musicien intrépide qui déborde d'imagination.
Sauf que cette rencontre ne se passe pas très bien.
Je crois que chacun a trouvé l'autre passablement désagréable. Ce sont les mots de Zazie. Pascal Obispo lui fait quand même écouter ce qu'il a, mais rien ne colle. Finalement, pour lui faire plaisir, Zazie choisit la mélodie d'Un, deux, trois soleils et la chanson hérite de la 12e place sur son disque.
Je retourne à l'enfance que personne.
Pour l'enregistrement de son album, Zazie se rend en Angleterre.
Dans les studios d'un certain Peter Gabriel, ses studios Real World, elle raconte. Il cuisinait des pâtes pour l'équipe,
ça,
il m'a
sympa.
Mise sur des rails. Oh, il est adorable. Nos disques sont sortis le même jour. Le mien s'appelait Je tue il, le sien, celui de Peter Gabriel, Us. Le succès de Je tue il de Zazie est plutôt confidentiel, mais il permet à la chanteuse de remporter la victoire de la musique de la révélation de l'année en 1993. Quant à son amitié avec Pascal Obispo, elle ne faisait que commencer. Chacun ensuite va se manifester par petites touches sur les disques de l'autre, jusqu'à s'afficher fièrement côte à côte le temps d'un duo.
Du ciel et de l'ombre, je te hais comme tu es.
on s'y perd.
C'est toi contre moi.
On se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi.
La guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi.
Pourvu qu'on reste.
Zazie et Pascal Obispo sont les meilleurs ennemis. Un extrait à l'origine de l'album Superflu d'Obispo et qui sera donc sur la nouvelle compilation de Zazie.
Oui, le vinyle baptisé Rareté sortira demain en édition limitée à 500 exemplaires.
L'histoire cachée derrière une chanson, un duo, un groupe, la partition d'Amblin Roche tous les matins juste avant 6h30. Merci Amblin,
merci
à demain.
Merci, à demain.
6h29, la météo, Laurent Cabrol.
Bah oui, ça sera aussi lancinant que la jolie chanson que l'on vient d'entendre, puisque nous sommes sous le soleil, nous sommes sous la chaleur, en pleine chaleur. Biarritz est la ville la plus fraîche ce matin, cet après-midi, la ville la plus fraîche, c'est surprenant, mais tout simplement parce que les vents viennent de la mer, ils rafraîchissent. 23 Guétari, nous sommes aussi dans ce secteur-là, hein, dans ce secteur des Pyrénées-Atlantiques. 25 à Amiens, cet après-midi, 26 à Valenciennes, 27 à Nice. Pontivy et à Saumur, 28 à Paris, Nancy et Nantes, 29 degrés, Bordeaux, Lyon, Niort, Marseille, Toulouse, 32 en Arles, 33 degrés à Port-Vent, des Castelsarrasins, dans le Tarn-et-Garonne. Vous voyez que ce sont des températures chaudes, raisonnablement chaudes. Elles seront de plus en plus chaudes, je le dis depuis le début de la semaine, mais tout se confirme, à savoir que demain et après-demain, jusqu'en fin de semaine, nous aurons des valeurs qui vont probablement dépasser les 32-33 degrés dans les régions du sud-ouest, peut-être même 35. Alors c'est une forte période de chaleur qui nous attend, mais je vous dirai tout à l'heure qu'elle ne va pas trop durer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y aura quand même des nuages dans le ciel, ce qui sont des nuages de beau temps et de chaleur. Et là aussi, je vous en parlerai tout à l'heure.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Jeudi 10 juin, bon réveil, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
C'est un match. Djokovic.
Ce rugissement, c'est celui d'un joueur de tennis qualifié pour une demi-finale de Roland-Garros. Novak Djokovic et la rage de vaincre. Il faut dire qu'il était plus de 23 heures et qu'après couvre-feu, il n'y avait plus de spectateurs pour l'acclamer. Des réservations qui se font attendre pour les colonies de vacances, mais les organisateurs gardent leur optimisme grâce aux données sanitaires encourageantes, on va le voir. Et puis tout savoir sur l'éclipse de soleil prévue à midi est partiellement visible depuis la France métropolitaine.
Juste après ce journal, on écoute le monde changer et on prend le pouls des Français. 135 000 personnes sondées par Opinion et la Matmut sur les transformations, les transitions en cours dans la société française. Baromètre d'une ampleur inédite aux enseignements passionnants et que viennent nous dévoiler Frédéric Michaud d'Opinionway et Stéphanie Boutin, directrice générale adjointe de la Matmut. C'est dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a vu hier soir la première session véritablement nocturne de Roland-Garros, et puisqu'il faisait bien nuit quand s'est terminé le quart de finale de Novak Djokovic face à Matteo Berrettini. Le couvre-feu, tout juste repoussé à 23h, n'était donc pas suffisamment tardif pour que les spectateurs profitent du spectacle jusqu'au bout, Axel May.
Il est 22h30, alors que Matteo Berrettini vient de revenir à une manche à deux. Le speaker prend la parole. Le quatrième set commence, des milliers de spectateurs sont encore présents. Lors d'un changement de côté, à 3-2 pour Djokovic, service à suivre pour Berrettini, nouvelle intervention du speaker.
Mesdames, Messieurs, le jeu est suspendu, nous attendons que vous ayez quitté les tribunes. Les joueurs reprendront le match dans quelques minutes à huis clos.
Le cours central finit par se vider.
Je m'attendais à résister fortement. Mais bon, tout le monde s'est levé comme des moutons dès que les joueurs sont partis.
Djoko dominait, donc c'est pas ce qui est le plus intéressant.
Et là, Matteo se réveille. Et du coup, ça devient serré. C'est ça qui est bien dans les matchs. Et pile, bah, on peut plus regarder la suite.
On va rentrer, on va être dans le Uber, on va attendre à l'Uber et on va se mettre avec nos portables comme des cons. Vraiment, c'est ça?
Après une vingtaine de minutes d'interruption, le match reprend avec pour seule ambiance le bruit des balles et le cri de Djoko alors qu'il remporte le quatrième set, 7 jeux à 5. Le voici une nouvelle fois en demi-finale où il affrontera son meilleur ennemi de la porte d'Auteuil, Rafael Nadal.
Et voici comment Djokovic appréhende cette demi-finale face à l'Espagnol. Les vibrations sont différentes quand j'entre sur le court avec lui. C'est pour ça que notre rivalité est historique pour ce sport, dit-il.
6h33, avec les étapes progressives du déconfinement, on se prend à rêver d'un été quasi normal. Et qui dit été, François Geffrier, Nicolo.
Oui, l'an dernier, les colonies de vacances avaient dû faire face à une baisse de fréquentation allant jusqu'à moins 40%. Mais pour cet été, les réservations reprennent et Victor Pourchet, tout le monde s'organise.
Pour l'instant, c'est l'optimisme qui prime. Prenez par exemple les Aro Events, ce réseau qui organise des colonies de vacances. Rodrigue Carbonel, son secrétaire général, a de l'espoir. La moitié de ses places restent vacantes, mais il compte sur les prochaines semaines pour faire le plein.
La destination France intéresse particulièrement les familles. Et puis, on peut constater un réengouement pour la Corse, qui à mon avis a compensé le fait qu'il y ait peu d'envie de partir à l'étranger.
En cause, les protocoles sanitaires qui varient. Pour les départs en France, un test PCR négatif suffit. En revanche, pour l'étranger, c'est un peu plus flou. Marie doit envoyer ses deux filles en Allemagne dans quelques semaines.
Les instructions sont pas très claires sur les sites des ambassades. Et en plus, ça change souvent. Je prends le billet aujourd'hui, mais je sais pas si dans deux semaines, ce sera la même chose.
Alors, partir à l'étranger, c'est possible, mais pas partout. Stéphane Bourrier, directeur des séjours enfants et adolescents à l'UCPA.
On ne sort pas d'Europe. Les conditions d'accueil ne permettent pas aujourd'hui de faire partir les enfants si loin. Le fait que beaucoup de pays imposent des restrictions à l'arrivée est compliqué à gérer pour nos équipes.
Enfin, du côté des moniteurs, beaucoup de candidats au BAFA n'ont pas pu effectuer de stage pour valider leur brevet. Certains organismes pourraient donc demander des dérogations au ministère de l'Éducation nationale pour recruter.
Victor Pourchet.
La politique est cette thématique sur laquelle Emmanuel Macron veut se montrer actif, l'immigration.
Oui, Europe 1 avait révélé la tenue de cette réunion hier à l'Élysée avec le président, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Quel était l'objectif de cette rencontre, Louis Dragnel?
D'abord, à un an de la présidentielle, Emmanuel Macron sait que son bilan migratoire est contesté. Il veut montrer à la droite qu'il est crédible sur ces sujets régaliens. Un proche conseiller du président le reconnaît. Le taux d'acceptabilité de l'immigration est de plus en plus bas. Deuxièmement, le chef de l'État veut prouver qu'il n'est pas que dans les mots, mais aussi dans l'action. Concrètement, il veut régler la question des déboutés du droit d'asile qui ne repartent pas dans leur pays. Près de 80 000 personnes par an, officiellement expulsées, mais sans jamais quitter le territoire. Même intention présidentielle pour les étrangers qui ne sont pas concernés par le droit d'asile. 85% de ces personnes restent en réalité en France malgré une décision d'expulsion. Pour être plus efficace, Emmanuel Macron va donc créer une task force entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice avec une volonté que la justice freine moins l'application des reconduites à la frontière. Enfin, ce n'est pas nouveau car Emmanuel Macron en parle depuis 2 ans. Le chef de l'État a demandé à son ministre des Affaires étrangères d'accroître la pression sur l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. 3 pays qui refusent de reconnaître la moitié des ressortissants que la France veut expulser.
Louis de Ragnel.
Enfin, le soleil a rendez-vous avec la lune. Aujourd'hui, une éclipse de soleil va parcourir en milieu de journée le ciel de l'hémisphère nord.
Oui, attention les yeux, hein, il faut des lunettes spéciales pour observer ce phénomène. L'heure d'Autriche va nous dire où l'on peut admirer le spectacle.
Au Canada, dans le nord de la Russie ou au Groenland, l'éclipse sera presque totale. En France, elle sera partielle. Le soleil sera dans l'obscurité seulement à 13% à Paris, 3% à Marseille. Le meilleur spot pour voir ce spectacle céleste est dans l'ouest de la France, à Brest. Mais attention, n'observez pas le soleil à l'œil nu, recommande Milan Maximovic, astrophysicien à l'Observatoire de Paris.
Il suffit de quelques secondes pour potentiellement brûler la rétine. Il y a eu des accidents en fixant le soleil, donc ça, ne jamais le faire. Pour observer, le mieux, c'est les lunettes d'observation d'éclipse. Après, ce qui marche bien aussi, c'est les masques à soudeurs, les gens qui font de la soudure. C'est toujours un moment, je trouve, moi, émouvant de voir qu'il se passe quelque chose dans le ciel.
Midi sera l'heure parfaite pour suivre ce spectacle. Et en France, on ne ressentira pas de baisse de la luminosité.
L'heure d'Autriche.
Merci, c'était le journal de François Geffrier. Il est 6h37. Europe 1. L'heure d'accueillir nos deux invités ce matin. Stéphanie Boutin, directrice générale adjointe de la Matmut, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway, bonjour à vous. Vos deux entreprises ont sondé plus de 135 000 Français sur leurs préoccupations dans ce monde qui change. Les transitions de la société française, comment elles sont vécues, qu'est-ce qui préoccupe nos concitoyens et quel rôle en face pour les employeurs, les compagnies. C'est une participation record pour une étude de ce type. Les enseignements sont passionnants et on s'y plonge avec vous dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Les transitions de la société française, c'est donc le nom de ce baromètre OpinionWay pour le groupe Matmut que vous publiez aujourd'hui, Stéphanie Boutin et Frédéric Michaud. Je voudrais commencer avec vous, Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay. Elle a vraiment valeur de sondage, cette étude, je le disais, avec un nombre inédit et assez impressionnant de répondants.
Oui, absolument. Il faut vraiment insister sur le fait que la démarche de la Matmut est totalement inédite. Habituellement, vous savez, ce sont les institutions politiques qui se lancent dans des opérations de démocratie participative. On se souvient du grand débat national. Là, c'est une grande entreprise qui décide de consulter ses collaborateurs, plus de 4 millions de personnes sur leur perception de la société française. Et l'opération a rencontré un véritable succès. 135 000 personnes, vous l'avez dit, hein, c'est une participation qui est colossale et surtout, ça nous donne une vision très fine, très précise des préoccupations actuelles.
Et justement, ce qui frappe quand on lit les résultats, c'est qu'il y a 5 priorités qui ressortent et l'insécurité n'est pas, mais alors pas du tout, en tête des préoccupations, elle qui est pourtant érigée, on le voit, hein, en enjeu phare du débat politique en ce moment à l'approche de 2022.
Oui, c'est la préoccupation sanitaire, sans surprise, qui ressort très fortement, la question de l'accès aux soins, la question de la sécurité sanitaire, la thématique environnementale aussi est présente. Mais ce qui est très frappant, c'est que les inquiétudes sont diffuses et qu'elles concernent tous les domaines. Il y a la question de la sécurité qui existe tout de même. Il y a d'autres questions peut-être plus nouvelles, comme celle de la cybercriminalité qui ressortent de cette étude.
Le premier facteur d'incertitude, c'est donc la santé, Stéphanie Boutin. C'était attendu pour vous en période de pandémie, pour un assureur comme vous êtes?
Alors bien évidemment, la santé et l'accès aux soins est en pleine crise sanitaire, est venu comme le facteur numéro un de préoccupation. On a à la Matmut une forte mutuelle santé aussi, un grand axe santé, ça ne nous a pas surpris. Mais néanmoins, faire ce type de baromètre pendant une période de crise, on est content parce qu'on a été chercher plus loin. On a été chercher plus loin parce que c'est aussi le moment où en fait, chacun se pose ses questions fondamentales. C'est en période de crise qu'on revient sur qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est important pour nous. Et donc c'est un des premiers leviers, mais c'est pas le seul. Et on va voir aussi, alors avec Frédéric, ont émergé en fait aussi des nouvelles tendances, des nouvelles transformations qui sont très marquées et qui vont nous obliger, nous Matmut en fait, à adapter, puisque c'est fait dans le cadre de la constitution de notre raison d'être. On a voulu consulter l'ensemble de nos clients qui sont sociétaires. Je rappelle qu'une mutuelle d'assurance en fait appartient à ces sociétaires, donc c'est eux qui se sont prononcés, ces 4 millions de personnes, pour nous guider vers vraiment leur transformation, les attentes qu'ils ont fortement sur la société.
On va revenir justement sur ce qu'on fait après avec vous dans quelques instants. Simplement, quand on dit inquiétude sur l'accès aux soins, qui est la première incertitude, la première inquiétude montrée dans ce baromètre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a vu les failles, l'état dans lequel on a laissé l'hôpital public aujourd'hui, par exemple?
Oui, mais c'est plus général que ça. On a des perceptions qui sont très inquiètes. Et ce qui domine, c'est un vrai sentiment de vulnérabilité.
Que le monde va trop vite aussi.
Le monde va trop vite, le changement est permanent. On est dans une société qui est de plus en plus instable. Et cette instabilité, elle se répercute sur sa propre situation au sein de la société, qui apparaît comme étant de plus en plus précaire. On a 90%, là aussi c'est un chiffre considérable, des répondants qui considèrent que leur position sociale peut s'effondrer rapidement. Pour le dire en d'autres termes, c'est la peur du déclassement. C'est une peur qui est très profonde, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'enracine et qui concerne toutes les catégories sociales.
Et pas seulement les plus âgés, parce que quand on dit le monde va trop vite, on a un peu le cliché voilà, des retraités. Ce n'est pas du tout le cas. C'est quoi la moyenne d'âge des personnes qui ont répondu peut-être?
Alors effectivement, vous avez raison, ça concerne toutes les tranches d'âge. On voit bien que les individus manquent de repères, ça crée beaucoup d'incertitudes. L'avenir de la société est vu avec beaucoup de noirceur. Beaucoup de pessimisme, même si son avenir personnel est appréhendé de façon un petit peu plus équilibrée, on est quand même dans un cadre global qui est très morose.
Ce qui ressort aussi, Stéphanie Boutin, c'est un besoin accru de solidarité qui s'exprime, de solidarité intergénérationnelle. Vous en parliez tout à l'heure, ce baromètre, c'est vous, le groupe Matmut, qui l'avait commandé. Les Français attendent aussi des entreprises qu'elles s'engagent. Comment un groupe d'assurance s'engage pour la solidarité intergénérationnelle? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors déjà, c'était un des facteurs assez frappants de l'étude, c'est quand on parle de solidarité ont émergé bien évidemment tout ce qu'on connaît sur les attentes de solidarité entre les personnes les plus aisées, les personnes les plus défavorisées, etc. Là, l'émergence la plus forte, c'est le lien intergénérationnel. Ça dit aussi quelque chose du besoin du vivre ensemble et de recréer, en fait, dans une société qu'on sait un peu atomisée, finalement une attente très forte.
Mais justement,
nouveau,
je vous prends au mot, ouais, qu'est-ce que vous allez en faire de cet enseignement-là ?
Les jeunes ont exprimé comme les plus âgés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces choses-là ? D'abord, on fait déjà des choses, essentiellement, c'est-à-dire qu'on a déjà des programmes qui sont mis en place, c'est-à-dire que, par exemple, on a depuis longtemps soutenu un programme qui s'appelle Aimer, qui permet, en fait, dans un même lieu de vie, un même logement, de permettre à une personne plus âgée de ne pas être isolée en accueillant un jeune qui lui-même a des problèmes d'accès au logement.
C'est un soutien financier à ces dispositifs.
Donc, c'est un soutien financier, on peut être aussi nous-mêmes porteurs de projets. Donc c'est toute cette typologie, en fait, de remontée qui va nous permettre après d'ajuster, en fait, ce sur quoi on va mettre nos forces. En fait, on est une entreprise légitime, puisqu'appartenant à l'économie sociale et solidaire, pour faire des actions qui dépassent le cadre de la RSE, qui nous redonnent aussi les grandes lignes. En fait, ça nous va nous permettre de poser des programmes. On a une multitude de sollicitations, vous imaginez bien. À partir de cette étude, on va répondre à ces besoins fondamentaux et donc axer nos forces, nos puissances, notre accompagnement. Donc voilà, je vous ai montré un exemple, mais il y en a d'autres qui existent, qui vont nous permettre de répondre à ces attentes-là.
Dernier enjeu que je voudrais évoquer avec vous, les Français attendent aussi dans ce baromètre des entreprises qu'elles s'impliquent pour plus de changements dans l'environnement. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Est-ce que vous allez ajuster aussi, là aussi, des dépenses ?
Alors là, on est extrêmement actifs depuis très longtemps. Donc, il s'agit plutôt pour nous de poursuivre et peut-être de faire connaître et faire connaître des acteurs que l'on soutient. En fait, on fait partie de ces entreprises qui ont déjà lancé la réduction des déchets, le zéro plastique en entreprise, qui est une opération assez compliquée.
Donc, les bâtiments, les voyages, etc. Il y a plein de leviers pour vous.
On a créé le premier bâtiment qu'on appelle Passive House, qui est un label, c'est-à-dire qui s'autogénère. Ce qui implique, hein, financièrement, on va parler concret, ça implique de construire des bâtiments d'entreprise qui coûtent entre 20 et 30% plus cher que des bâtiments classiques.
Est-ce qu'il y a un budget ou un pourcentage du chiffre d'affaires qui est isolé pour l'environnement, pour la solidarité ? Dernière question.
On ne le redistribue pas comme ça. On est plutôt aussi, on a l'avantage, hein, pour ça, de pouvoir avoir des coups de cœur. Par exemple, on soutient Plastic Odyssée. Vous avez certainement entendu parler de ces garçons incroyables qui ont décidé, à partir de la matière plastique, de recréer de l'énergie, de partir en une expédition pour permettre aux pays émergents de trouver dans la matière plastique, en fait, une ressource en tant que telle. Donc c'est une autre façon d'essayer d'impliquer
le
soutien à des projets qui sont très structurants.
Merci à vous, Stéphanie Boutin, directrice générale adjointe de la Matmut, et merci à vous, Frédéric Michaud d'OpinionWay, d'être revenu nous livrer les enseignements de ce baromètre mené donc en interrogeant plus de 135 000 personnes. C'est assez inédit. Merci beaucoup. Bonne journée.
Ben, merci.
Europe 1.
6h47, l'innovation arrive, à tout de suite.
Europe 1, Théo Manval.
6h10, l'innovation du jour. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Théo.
Votre innovation ce matin est un nouvel outil à disposition des secouristes. Si on se retrouve bloqué dans les décombres après une explosion ou un tremblement de terre, ce seront bientôt des drones qui pourront nous localiser rien qu'avec nos cris.
Oui, on connaissait les chiens secouristes. On aura bientôt des drones sapeurs-pompiers. Ils vont survoler la zone bardée de micros ultra-sensibles. Et dès qu'ils entendront quelqu'un appeler à l'aide ou taper sur un tuyau pour se faire remarquer, eh bien ils vont trianguler la position et l'envoyer aux secouristes pour qu'ils interviennent. Et c'est très important parce que quand on est plusieurs mètres sous les décombres, et ben souvent on se dit que crier, appeler à l'aide, ça ne sert à rien,
qu'on
que personne ne nous entendra, personne ne nous verra. Et bien là, il ne faudra plus hésiter avec ces drones à grandes oreilles.
Alors comment est-ce qu'ils font pour distinguer, Anissé, un appel à l'aide de tous les bruits environnants, hein, le vent, les pelleteuses, le moteur du drone lui-même ?
Ben en fait, ils partent d'une base de données des différents bruits qu'on fait spontanément, soit quand on est en détresse, soit qu'on veut attirer l'attention, donc ça peut être aussi bien un tapotement du pied que des gémissements. Puis ils vont les extraire du brouhaha avec des techniques d'intelligence artificielle. Et c'est ça la grande nouveauté, hein. C'est pas le drone, hein. Être capable vraiment de filtrer uniquement les bruits d'une personne en détresse. En plus, l'algorithme est capable d'amplifier un murmure lointain et de le rendre parfaitement audible. Donc c'est un système qui pourrait également servir aux équipes au sol.
Et alors, est-ce que c'est déjà utilisé par des équipes ?
Très très bientôt, hein. Le système sort tout juste des laboratoires de l'Institut Fraunhofer en Allemagne. Des tests sont en cours et l'idée, ben, c'est d'équiper des drones déjà utilisés aujourd'hui lors des interventions. Comme ça, ben, quand ils ne peuvent pas nous voir, au moins ils pourront nous entendre.
Merci beaucoup Anissé Mbida, votre innovation du jour. À demain. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent à 6h52 pour la revue de presse internationale. Et on commence en Angleterre ce matin avec vous, Anaïs Cordoba, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui occupe les journaux à Londres ?
Alors, en une de la presse ce matin, cette photo de Joe Biden, tout sourire, accueilli sur le sol britannique hier soir. Il rencontre Boris Johnson cet après-midi dans les Cornouailles, en amont du sommet du G7. The Sun titre sur la déclaration amicale du président américain prononcée à son arrivée. L'alliance militaire et politique de nos deux pays est la plus forte de l'histoire. The Eye rapporte que les deux dirigeants vont signer une nouvelle charte de l'Atlantique, inspirée par celle de Churchill et Roosevelt. Dans ce texte, Joe Biden et Boris Johnson s'engage à collaborer face à plusieurs enjeux majeurs comme la reconstruction post-pandémie et le changement climatique. Mais derrière ce front uni, un sujet de tension, le problème de la frontière en Irlande du Nord. Le Times titre sur l'inquiétude de Joe Biden qui, en privé, accuse les Britanniques d'attiser les tensions dans cette région.
Anaïs Cordoba, correspondante Europe 1 en Angleterre. Et justement, les États-Unis, deuxième destination ce matin où nous attend Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
Bonjour.
C'est aussi Joe Biden qui fait la une chez vous. Avec quel grand titre ?
Eh bien, l'accord trouvé entre la Maison-Blanche et Pfizer, les États-Unis ont acheté et vont donner 500 millions de doses de ce vaccin dans le monde entier, titre CNN. Joe Biden annoncera la nouvelle cette semaine au sommet du G7 en Angleterre. Les États-Unis sont sur le point de passer à la vitesse supérieure, écrit USA Today, alors que le pays s'est déjà engagé à distribuer 80 millions de doses d'ici la fin du mois de juin. Des efforts jugés pour le moment insuffisants par certains, explique le New York Times. Le président américain fait face à une intense pression internationale pour remédier à la pénurie de doses et aux disparités vaccinales entre les pays riches et les pays pauvres. Le Washington Post précise que sur 500 millions, 200 seront distribués dès cette année, le reste l'an prochain, et toutes ces doses sont destinées à des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le fossé vaccinal est vaste, rappelle le journal. Plus de 50% de la population américaine a reçu au moins une dose, contre moins de 2% en Afrique.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York. On va terminer ce tour du monde en Pologne avec vous, Marie Le Pulloc. Bonjour.
Bonjour à tous.
De quoi parlent les journaux à Varsovie ?
Eh bien, du dernier rebondissement dans le conflit de la mine de charbon qui oppose la République tchèque à la Pologne devant la justice européenne. Prague accuse la mine polonaise de Turów, située à la frontière, d'être responsable de dommages environnementaux. Et hier, la Commission européenne a décidé de rejoindre Prague dans ce procès, écrit RMF FM, une intervention qui accroît les chances de la République tchèque de gagner, poursuit le média. La saga continue, titre de son côté le magazine Politeka, car il y a quelques semaines, la Cour européenne de justice a demandé à la Pologne de fermer cette mine en attendant de prendre une décision finale, ce que Varsovie refuse de faire. Prague a donc demandé à la Cour d'imposer une amende de 5 millions d'euros par jour à la Pologne, ajoute Politeka. De son côté, Varsovie prévoit d'envoyer de nouveaux éléments à la justice européenne pour la convaincre de changer sa décision, explique Polskie Radio 24.
Marie Le Pulloc, Europe 1 en Pologne, votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants, c'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe 1.
6h55, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes et Sébastien Krebs qui vous informe pour le 7-9. A tout de suite. Très bon réveil sur Europe 1, il est 6h58. Merci de nous avoir suivis depuis tôt ce matin. Sébastien Krebs vous informe jusqu'à 9h. Bonjour Sébastien.
Bonjour Théo Manval, à demain avec toute l'équipe du 5-7. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil en ce jeudi matin. Et les guitares ? Pour démarrer la journée, ça va vous donner la pêche. Les Stones sont à l'honneur. On vous fait découvrir ce matin l'exposition exceptionnelle qui démarre à Marseille, au Vélodrome, qui va vous plonger dans la légende des Rolling Stones, leurs guitares, leurs costumes de scène, les coulisses de leur tournée. Expo créée à Londres et qui fait donc escale pour l'été à Marseille. Rendez-vous pour la visite. À 7h30, ce sera en musique, évidemment. De la musique, y en aura-t-il cet été dans les boîtes de nuit ? Tiens, les patrons de discothèques sont toujours dans l'attente, mais le ciel est en train de s'éclaircir. On vous donnera les toutes dernières infos tout à l'heure. Et puis, les restaurateurs vont-ils pouvoir enfin solder le conflit qui les oppose à leurs assureurs sur la prise en charge des pertes liées au Covid ? Le groupe AXA a fait l'objet de nombreux recours en justice et son directeur général a choisi Europe 1 ce matin pour dévoiler le déblocage d'une enveloppe, 300 millions d'euros pour les restaurateurs. Thomas Buberl sera mon invité dans le tête-à-tête à 7h40. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour, bonjour.
La météo de ce jeudi.
Mon cher Sébastien, eh bien, c'est une journée ensoleillée, chaude, mais parfois surprenante. Attention aux orages, des orages ponctuels, très violents, de courte durée, des pluies torrentielles de quelques minutes, comme ce fut le cas à Ferrette, dans le Haut-Rhin, près d'Alkirch. Attention, attention à ces averses orageuses qui pourraient intervenir sur l'Alsace, les Vosges, le Jura, la région Rhône-Alpes et l'Auvergne, la vallée du Rhône et le massif Corse, comme les Alpes du Sud. Prudence, disais-je, prudence, mais profitez quand même de cette chaleur et de cette journée très agréable pour la plupart d'entre nous, même 90% du territoire, avec des températures de 23 à 33 degrés. Ça monte.
Merci à vous Laurent Cabrol, à tout à l'heure, juste avant 7h30.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite votre journal.